Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Atari. Alors ce mois-ci, on ne va pas débattre d'un film d'actualité, mais on va revenir sur la filmographie d'un cinéaste, David Fincher, en se concentrant notamment sur trois films, que sont The Social Network, Millennium et Mank. Pour en parler avec moi aujourd'hui, je suis accompagné de Josué Morel. Salut Josué.
Salut Corentin.
Et Thomas Grignon. Salut Thomas.
Bonjour Corentin.
Alors vous avez écrit il y a deux ans maintenant un article à l'occasion d'un dossier qu'on avait publié pour la décennie des années 2010, qui s'intitulait La Dynamique Fincher, où vous abordiez notamment la question du réseau et de toute la question du mouvement dans le film, notamment Millennium, qu'on avait cité un petit peu dans le top. Alors Josué, je voudrais te poser la question, à ton avis, pourquoi avoir choisi cet angle un peu du réseau, pourquoi ça te semble être aussi l'angle pertinent un petit peu pour aborder un petit peu les derniers films de David Fincher depuis Social Network?
Alors, je n'ai pas à répondre à ta question directement parce que ça reviendrait quelque part à régler le débat en 5 minutes, mais à mon avis, et je pense qu'on... Notre mission, ça va être un peu d'essayer d'expliquer pourquoi. La question du réseau, c'est le sujet, en fait, du cinéma de Fincher. Ou plutôt la manière dont il s'est affirmé. Donc, à mon avis, le cinéma de Fincher s'est affirmé, justement, depuis Social Network. Peut-être qu'on peut aussi faire un bref retour sur notre propre rapport à Fincher. Moi, je sais que c'est un cinéaste qui ne m'a pas immédiatement convaincu. J'ai mis du temps à aimer Fincher, que ce soit Millennium, que ce soit Gone Girl, ou même, d'une certaine manière, Social Network. Ce sont des films qui se sont plutôt affirmés dans le temps. Et d'une certaine manière, je pense que, Fincher est un cinéaste qui a suscité une attention de la critique de la cinéphilie, mais c'est pas toujours forcément évident de mettre le doigt sur pourquoi c'est bien, Fincher. Ouais. Et notamment, il y a quelque chose qui me semble un peu évident à partir de Social Network. Il y a une série de transformations, à mon avis, qui s'opèrent à partir de ce film-là.
J'ai même pas pris la peine, ça on dit peut-être long sur la façon de stage de Fincher, j'ai même pris la peine de présenter Fincher, mais non. Évidemment, il y a pas mal d'autres films avant ce qu'on va évoquer là. Pourquoi il y a quelque chose qui se joue là à partir de 2010, je crois que c'est ça le film?
Voilà, alors pour moi, il y a deux choses immédiates, vraiment sur des impressions presque évidentes. D'une part, ça s'accélère, mais ça s'accélère à tous les niveaux, c'est-à-dire d'une part, les personnages parlent plus vite. Donc ça, je pense que c'est un peu l'apport d'Aaron Sorkin, qui est donc le scénariste de Social Network, mais c'est quelque chose qui va se perpétuer sur les autres films d'Alvin Fincher, c'est-à-dire il y a une somme d'informations. Mais il y a aussi une accélération de la narration, il y a une accélération du montage, tout d'un coup, il y a une volonté presque d'embrasser une vitesse qui serait, et je pense qu'on va y revenir à plusieurs reprises, que serait la vitesse du monde contemporain. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, assez évidente aussi, c'est en termes de récits et de montage, mais bien les deux ensemble, c'est que tous les récits à partir de là vont traiter des patchwork. Un peu aussi comme Zodiac d'une certaine manière, c'est-à-dire que Social Network...
Zodiac qui préparait peut-être un petit peu, mais qui n'avait pas la vitesse dont tu parles justement.
Voilà. Oui, alors d'une part, mais d'autre part, même quand on voit Social Network, bon, il y a des allers-retours entre le passé, le présent du procès, etc. Millennium est un peu le film somme là-dessus, puisque à la fois il y a deux personnages différents, il y a le nord, il y a le sud, il y a une enquête au présent, il y a un retour au passé. Mank, Gone Girl, etc. vont tous un peu épouser ce principe de feuilletage, de spirale, de retour, d'entrelacement de différents films. Donc déjà là se dessine quelque chose qui se rapproche du réseau, qui serait l'idée d'une toile narrative que le cinéma de Fincher va connecter plusieurs points. Ce qui est un peu le principe aussi d'un réseau, le principe de liaison. Sur ça, il me semble que Millennium, notamment, voilà, pour donner un exemple, est un film particulièrement intéressant, puisqu'il y a le principe d'une enquête, avec cette idée aussi qu'il va y avoir une forme de remédiation du passé à l'aune du présent, puisque c'est par une enquête statistique, c'est par une compilation d'informations, etc., etc., qu'on va pouvoir décoder le passé, mais qu'aussi on va pouvoir décoder le passé en revenant à un passé antérieur. Donc il y a comme ça une idée de stratification qui est assez fondamentale dans le cinéma de Fincher et qui, alors c'est là je pense un peu le cœur du sujet, le cœur de notre problème, qui va s'incarner formellement. Alors par exemple, on peut partir des ouvertures des films. Je trouve que l'ouverture de Social Network est particulièrement parlante là-dessus. Elle se fait un peu en deux temps, puisqu'au fond, c'est un peu une des grandes idées, je pense, qu'on va creuser, c'est que rien ou presque n'est autonome chez Fincher. C'est-à-dire que les scènes se répondent les unes aux autres, les plans se répondent les unes aux autres, il y a un principe de débordement. Par exemple, c'est quoi l'ouverture de Social Network? C'est d'abord une discussion. C'est une discussion entre Mark Zuckerberg et sa copine de l'époque, qui est sur le point de le larguer, il ne le sait pas encore. Et la discussion, qui est filmée en champ contre champ, va prendre une logique d'embranchement. C'est-à-dire que, par exemple, Mark Zuckerberg, qui a un peu l'esprit d'escalier, va par moment revenir à une question ou à un sujet qui était brièvement abordé une minute plus tôt ou 30 secondes plus tôt, ce qui fait qu'il y a un peu... Il y a quelque chose d'un peu tentaculaire dans lequel se perd sa copine, et il y a une forme d'embranchement des différents sujets de conversation. Et ce qui est intéressant, c'est que la scène qui suit est, d'une certaine manière, la poursuite de cet horizon et en même temps son contre-champ, son contre-point, puisque c'est une scène entièrement muette, sans dialogue, où on voit le personnage de Zuckerberg revenir à son dortoir. Or, qu'est-ce qui se passe dans cette scène qui est un générique en fait. Hein.
Voilà. Oui, il marche dans le campus.
Il marche dans le campus, il dort dans le campus, il traverse différents lieux. Alors, d'une part, une chose assez évidente, c'est qu'il va relier différents points les uns avec les autres par un trajet. Bon, là, encore une fois, on va sur l'idée de réseau. Et d'autre part, c'est que chaque scène en fait commence sur un mouvement préalable initial que la trajectoire de Zuckerberg va détourner. C'est-à-dire que par exemple, le premier plan de ce trajet, c'est un mouvement de gauche à droite de la caméra, jusqu'à ce que Zuckerberg entre dans le plan, et tout d'un coup, la caméra va se mettre à suivre. Et en fait, chaque plan qui suit va obéir au même principe. C'est-à-dire qu'il y a une disposition, il y a une appréhension de l'espace, que ce soit dans le cadrage ou par un mouvement de caméra initial, et quand le personnage de Zuckerberg arrive à proprement parler dans le plan, ça change la dynamique. Et que fait précisément le personnage de Zuckerberg à l'échelle du film? C'est qu'il va inventer un réseau dans le réseau, c'est-à-dire le social network, ce qui va permettre de connecter des millions d'individus à l'intérieur d'un monde qui est chaotique, qui est un embranchement de signes, d'intrigues, de trames, ce qui a toujours été au fond un peu un horizon dans le cinéma de Fincher, on va dire depuis Seven. Fight Club aussi était un monde codé, Zodiac évidemment. Donc cette idée qu'en fin de compte, va moins y avoir une espèce d'enquête pour décrypter des signes que, en fin de compte, les personnages de Fincher vont vouloir réinventer un ordre à l'intérieur du chaos, qui vont vouloir quelque part dompter l'ordre naturel des choses. Ce qui nous amène, alors que je disais justement que la scène n'était pas autonome, je sais que tu voulais en parler, cette introduction de Social Network, elle nous amène aussi à tout de suite ce que fait Mark Zuckerberg, c'est-à-dire la création d'une espèce de prototype, d'une certaine manière, de Facebook.
Bah, c'est donc la scène de création de FaceMash, ça s'appelait comme ça à l'époque, qui est l'espèce d'ancêtre de Facebook, et qui consiste, alors c'est un peu graveleux, hein, c'est d'ailleurs de mettre deux photos d'étudiantes côte à côte et de voter pour qui la plus attirante, quoi, si je peux dire.
Bon, the hottest, on voilà. Dirait, voilà.
Après, voilà, on peut discuter de ces fondations-là déjà de base, mais disons que ce qui m'a intéressé dans la séquence, c'est que, bon, évidemment, on a une scène un peu typique aussi qu'on va retrouver dans Millennium notamment, c'est-à-dire le personnage de hacker, entre guillemets, qui est face à son écran d'ordinateur. Donc on pourrait dire, voilà, là, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de mouvement, ça va être un personnage qui va être devant son ordinateur. Que fait Fincher, évidemment? Quand le réseau commence à se mettre en place, la caméra va commencer à s'éloigner petit à petit de la chambre de Zuckerberg pour aller filmer quoi? Pour aller filmer des espèces de clubs privés de Harvard qui sont déjà en soi des réseaux sociaux. Donc en fait, quelque part, qu'est-ce qu'on voit?
Dont le personnage est exclu, c'est intéressant.
Évidemment, voilà. Ça c'est tout l'enjeu. Donc évidemment, on a une espèce de revanche, entre guillemets, d'un personnage qui est exclu du réseau, qui vient architecturer un nouveau réseau, qui vient se superposer au réseau initial, puisqu'on voit que la soirée d'intégration, entre guillemets, dans une espèce de club privé est perturbée par le fait que FaceMash apparaît, et donc on a toutes les personnes qui vont se mettre devant leur écran d'ordinateur. Et on voit déjà une espèce de dynamique, alors on pourra en reparler après on discerne déjà des motifs qui sont prégnants pour essayer de raconter ça va être le motif de la grille, quoi, qui est celui du réseau, à travers les plans où la caméra se met dehors, quand vous avez des étudiants qui sont devant leur ordinateur, avec des fenêtres qui évidemment viennent comme ça, stratifier un petit peu l'espace, et le rendre un petit peu, voilà, composite, comme un espèce de maillage entre différentes lignes, et plein de lignes d'interaction comme ça qui viennent se brouiller, et tout l'enjeu évidemment pour le personnage, ça va être de contrôler le réseau, et d'en être l'architecte quelque part. Et évidemment, il va perdre ses moyens quand il va y avoir une sorte de résistance avec le procès, tout ça. Donc ça, je reviens pas forcément là-dessus, mais ça me semblait intéressant quelque part que, voilà, on est d'entrée de jeu, on a raconté quoi, la 3 scènes, on est même pas à 5-6 minutes du film, on a déjà un petit peu tout l'enjeu, entre guillemets, du film entier, qui vient comme ça se synthétiser dans la dynamique des premières scènes.
Et qui nous permet de creuser aussi une question, c'est que ce que nous raconte aussi le début de ce Social Network, c'est quelqu'un qui va insuffler sa propre vitesse, c'est-à-dire la vitesse de son débit de parole, c'est un personnage qui parle très vite.
Au montage, c'est ce que tu veux dire. Ouais.
Et au monde, de manière générale. Et alors là, sur ça, sur cette idée parce que voilà, on l'a dit, c'est rapide, mais je pense que justement cette vitesse chez Fincher est peut-être aussi, d'une certaine manière, une forme de raison pour laquelle il est admiré en tant que technicien, mais qui met aussi peut-être d'une certaine manière le spectateur à distance, puisqu'il y a un peu l'impression que parfois qu'on se fait avoir devant un film de Fincher, qu'il y a un tel brio, ce serait entre guillemets un cinéma d'expert, hein, voilà, une espèce d'épithète qu'on lui a beaucoup adossé, qu'il y aurait quelque chose d'un peu... Je crois notamment que c'est François Bégodeau qui sûrement disait justement que l'idée, il y avait une idée d'une accumulation d'informations qui faisait un peu illusion de certaines manières. Je peux tout à fait comprendre qu'on puisse voir ça chez Fincher, et en même temps, je pense que c'est intéressant quand on creuse un peu ce que fait sa mise en scène, c'est de voir justement que cette vitesse, en soi, elle n'est pas nécessairement intéressante. C'est ce qu'elle va produire, c'est ce qu'elle va creuser en termes de mise en scène, notamment dans Millennium, il me semble que Fincher systématise quelque chose que j'ai assez peu vu au cinéma, du moins d'un point de vue aussi récurrent. C'est l'idée vraiment que, par exemple, sur un premier plan, il va filmer un mouvement de caméra, et dans le plan qui suit, ce mouvement de caméra va presque être décalqué par un mouvement interne dans un plan fixe. Par exemple, l'ouverture de Millennium, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a juste un travelling qui longe une rivière, et le plan suivant, on a un verger sous la neige, et en fait, le mouvement du vent reproduit le mouvement de la caméra précédente. Et en plus, il y a un débordement supplémentaire, qui est un débordement sonore, c'est que dans ce premier, dans ce deuxième plan, il y a quelque chose qui ne correspond pas à cet état naturel, il y a une sonnerie de téléphone. Et cette sonnerie de téléphone, c'est celle d'un troisième plan. On va entendre une voix au combiné, qui est celle donc, du personnage de Christopher Plummer, si je ne me trompe pas.
Ouais, c'est Wenger.
Voilà, Wenger, le chef de la famille Wenger, et que là encore, sa voix apparaît avant son corps. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans un plan quelque chose qui précède sur le suivant. Et une logique de débordement, comme ça, qui va profiler. C'est très intéressant, notamment sur le début du film, il y a presque un dialogue qui donne la clé. Si on voit le personnage de l'enquêteur que joué par Daniel Craig, qui sort du tribunal.
Donc c'est Michael, ouais.
Voilà, et il vient en fait d'être condamné dans une enquête qui a mal tourné, et il y a une journaliste qui lui fait « Don't try to play it down », n'essaye pas de minimiser, et lui il fait « Don't try to play it up either », c'est-à-dire d'essayer pas non plus d'en faire une affaire fondamentale. Et cette idée de « play it down » et de « play it up », en fait c'est une idée qui va être rejoint en permanence au montage, puisqu'il y avait en permanence des mouvements ascendants et descendants qui vont se répondre. C'est là où la fluidité de Fincher est assez passionnante, c'est aussi qu'il raccorde des choses a priori qui sont contraires, il raccorde des flux qui sont contraires. Alors pour donner des exemples très précis, mais en fait il y en a une vingtaine, une trentaine dans le film, enfin, c'est vraiment il y a une myriade de raccords.
Juste dans
Millennium, par exemple, on peut avoir, je me souviens quand le personnage de Lisbeth notamment vient se venger de ce travailleur social, enfin, je ne sais plus exactement comment on dit en français, qui s'occupe d'elle et qui en fait abuse de sa position pour la violer. Il y a par exemple un mouvement de caméra descendant sur la façade de l'immeuble, et le plan suivant, on va voir le personnage de Lisbeth qui est en train de prendre son verre d'eau dans le sens strictement inverse. Et ça, le film le fait tout le temps, mais vraiment presque de manière, toutes les 5 minutes, il y a une occurrence, quoi. Et là, on voit déjà qu'il se dessine quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une construction, il y a une manière de créer un montage, il y a une manière de créer un infra-récit à partir de pôles très divers, Millennium étant notamment un film complètement éclaté a priori dans sa structure narrative, où il y a différents endroits, différentes localités, différents personnages, différentes temporalités, dont il va être question de les relier par une enquête. Et qu'en même temps, à partir de ce chaos apparent, de cet éparpillement, va apparaître un ordre, par l'action d'un ou deux personnages. Et là, je pense qu'on touche un petit peu au cœur de, justement, pour répondre à ta question initiale, pourquoi le réseau, d'une certaine manière. Et que Zodiac, on peut revoir des films comme Zodiac à l'aune de ça, on peut voir une série comme Mindhunter. Alors moi, je mets Mindhunter un petit peu à part parce que Fincher ne réalise que certains épisodes, mais c'est un peu l'idée, c'est qu'on va créer à partir de quelque chose qui...
D'enregistrement...
Alors oui, même au-delà de comportements qui sont pathologiques et monstrueux, qui sont anormaux, qui sont un peu mystérieux, qui sont l'émanation... du mal, à
proprement parler, au départ, en fait, de ça.
Aussi, on va créer une nomenclature, on va créer une classification scientifique qui va permettre d'étiqueter tel ou tel comportement et de lui donner un sens. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose comme ça dans tous les films qui circule et qui est moins tendant l'élucidation d'une enquête qu'une manière justement de faire sens à partir d'une toile, on va dire, pour résumer les choses de manière très large.
Justement, ça me fait penser à ce que tu évoquais dans le texte, Thomas, que vous aviez coécrit, sur la question de la carte notamment. Genre, ça commence dans Zodiac, on a déjà des espèces de premiers indices comme ça, d'une forme d'appréhension du monde qui passe par un réseau, enfin, je sais pas comment le dire autrement. Mais...
Après, c'est déjà présent en fait dès ces tout premiers films, parce que, au fond, si on part du principe que l'idée de donner un ordre et une signification à une totalité chaotique du réel est l'idée principale du cinéma de Fincher, c'est au fond ce qui est déjà en jeu de manière très nette. Au moins à partir de The Game, de manière explicite, puisque c'est un film sur une espèce d'énigme généralisée, mais ou dans Fight Club, ou même dans
même,
Seven.
Mais dans Seven, qui est son deuxième film. Ouais.
Voilà. Mais il y a, disons, l'idée que, comment dire, l'enquête ne permet pas de résoudre la question du chaos initial du réel, et que si tout fait signe dans The Game, c'est parce qu'il y a une manigance généralisée, un complot. Si tout fait signe dans Seven, c'est parce qu'il y a une espèce de figure de narrateur qui serait le serial killer, qui crée un récit à l'intérieur du film. Ce qui me semble être vraiment fort à partir de Zodiac, c'est qu'il embrasse vraiment l'idée du chaos, précisément parce que la figure structurante qui va donner son équilibre à l'ensemble du film, qui est un peu le cœur noir autour duquel gravitent l'ensemble des personnages, c'est une figure qui n'est pas connue. Et par conséquent...
Et dont le signe d'ailleurs est une forme de
c'est
croisement.
C'est une espèce de croisement, et puis c'est un point d'interrogation inversé, enfin, je veux dire, il y a tous ces éléments-là dans Zodiac. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il me semble que Il y a une variation, alors peut-être tu la places plutôt du côté social network, moi il me semble que la variation est aussi présente des Zodiac, mmh. au sens où Fincher est un cinéaste dans les années 90 et 2000, postmoderne au sens où il n'y a pas de grand récit chez lui, la ligne narrative de ses films est toujours éclatée. Pourquoi ? Parce que le scénario n'a pas de sens en tant que tel, et d'ailleurs il adapte.
Mais il y a quand même une logique linéaire en certaine manière.
Oui, mais si tu veux, il adapte des gens comme Palahniuk, et s'il y a une logique linéaire, c'est soit parce que c'est une simulation en fait. dans The Game, voilà, simulacre, soit c'est carrément un délire paranoïaque et schizophrène dans Fight Club. Ou paranoïaque dans Panic Room aussi. Ça peut se lire dans cet angle-là. Zodiac, c'est vraiment un film qui nous dit le réel est chaotique par définition, puisqu'il y a un agent qui est inconnu et qui est le mal.
J'ai l'impression que ça s'ouvre au monde.
Qui dynamise vraiment tout ce qui se passe dans le film. Et les personnages doivent du coup mettre en place une méthode. C'est d'ailleurs le tournant méthodologique, on pourrait dire, du cinéma de Fincher, qui revient de manière très très forte dans Mindhunter, dont on avait parlé notamment dans ton article. Ils doivent mettre en place une méthode pour simplement folklore, on pourrait dire, cet inconnu qui est le mal et qui détruit la Californie à ce moment-là. Or, en quoi consiste cette méthode ? Elle consiste littéralement à lire des signes et à construire une enquête qui se base sur des mouvements, donc des déplacements dynamiques, à partir des indices laissés par l'assassin. Donc, d'emblée, faire sens du chaos, ça veut dire lire des signes d'une certaine manière, c'est-à-dire suivre le mouvement des signes pour aller vers un autre signe, pour aller vers un autre indice,
etc. C'est ce qui revient à créer des connexions et à construire soi-même un réseau. On en revient à cette question de social network. Là, je rebondis, ça me permet de revenir un peu sur Millennium. Moi, il y a une scène à un moment qui me semble très parlante, surtout quand tu dis qu'à un moment, envisager le réel lui-même comme un réseau de signes, etc. C'est cette scène où donc on voit Michael, le nom de famille, je vais pas l'écorcher,
Blomqvist,
voilà, quelque chose comme ça. Michael est à son téléphone, il vient d'arriver dans le nord du pays et alors il y a pas de réseau. On a plusieurs plans comme ça, il va à la supérette, il y a pas de réseau, on entend bien distinctement nos networks, etc., network not available, quelque chose comme ça. Et dans la scène suivante, qu'est-ce qu'on a ? On a donc le patriarche Vanguard qui vient lui présenter les différents membres de la famille, alors qu'il y a une famille un petit peu un passé disons compliqué. Hein. Alors il y a des nazis d'un côté, les gens qui se parlent pas de l'autre, et on a alors toutes les maisons sont à côté, sont reliées par
l'équivalence, les nazis d'un côté, les gens qui ne parlent pas de l'autre.
Il y a une sorte de déséquilibre quand même dans cette famille assez, assez fort, et donc toutes les maisons sont sur la même île, techniquement, et donc elles sont techniquement reliées par des chemins, mais la communication se fait plus. Il y a certaines portes qui restent fermées, et tout l'enjeu de l'enquête, c'est là que ça devient intéressant, c'est que l'île n'est reliée au pays qu'à un pont. Et à partir du moment où ce pont est coupé, ça crée une forme d'incohérence dans
ça va même au-delà, puisqu'on pourrait dire aussi qu'il y a presque un jeu de poupées russes, de réseau dans le réseau dans le réseau, puisque l'espace même de la maison où il est, où il y a un élément intrusif qui rabat un peu les cartes, c'est le chat, qui est par essence un animal qui ferait son chemin. Il y a la question de l'île, et puis il y a aussi le train qui va relier le pont, le train.
La famille Vanguard est donc une famille qui a fait fortune dans la construction d'un réseau ferroviaire.
Oui, et il n'y a qu'un train à une heure précise qui permet de relier le reste du pays à cette localité dans le nord, etc. Donc il y a quand même une logique d'emboîtement quelque part de fils, de réseaux.
Non, mais ce qui est intéressant outre ça, c'est pas que du thématique, c'est ça qui est fort. Mmh. C'est-à-dire qu'il l'articule à la fois sur une dimension formelle qui est de la dynamique de montage, puis aussi c'est sur les plans, le principe de composition des plans. Ce qui est absolument hallucinant dans Millennium et qui fait que c'est probablement son film le plus abouti je pense que c'est notre avis partagé.
Moi c'est le mien en tout cas.
C'est que quasiment tout le film est lisible à partir du moment où on projette, même pas symboliquement, je veux dire plastiquement, que c'est construit comme un réseau. Alors il y a des... on peut pas faire l'inventaire de tous les signes, mais en tout cas la quasi-totalité des plans contient des figures de croix et de croisements de mouvements et de croisements de lignes.
On peut partir de cas assez évidents. Le film se termine sur un embranchement, sur un carrefour, sur un croisement de deux routes, voilà.
Et le plan qui suit ce que tu expliquais là sur la continuité des mouvements, donc panoramique, la neige, le téléphone, termine sur une scène où le patriarche Vanguard reçoit un coup de téléphone ou en donne un je ne sais plus quoi et pose ses lunettes sur la branche d'une plante qui est envoyée tous les ans depuis la disparition de sa fille, c'est ça. Par potentiellement qui est potentiellement envoyé par l'assassin qu'on ne connaît pas. Or, en quoi consiste le fait de poser ses lunettes ? C'est littéralement que la tige verticale de la plante croise en abscisse et comme si elle était en abscisse l'ordonnée de ses lunettes. Donc
ça forme une croix.
Ça forme une croix, mais cette croix c'est quoi ? C'est justement le mouvement de recherche et d'enquête qui s'amorce par là. Ce qui est très intéressant ici, c'est que outre cette figure structurante de l'ensemble de la mise en scène, il y a des plans absolument extraordinaires, notamment dans le très court segment à la fin du film, quasiment autonome, où Lisbeth détourne de l'argent pour sauver
l'entreprise, pour sauver voilà. Michael du coup à la fin
pour
du
jour, sauver ma, le magazine Millennium, tout simplement. Et elle prend une série de moyens de locomotion différents, donc le train, l'avion,
un taxi.
Et il y a un plan absolument extraordinaire où arrive un train en arrière-plan et un avion qui fait exactement le même mouvement que du train. Ça dure à peu près une seconde et demie parce que ça va toujours
très vite. Ça passe à Zurich.
Voilà. C'est absolument parfait parce que si tu veux, il y a une espèce d'étagement, on dirait presque un plan à la métropolis si tu veux, avec un étagement de différentes lignes de mouvement qui dessine un univers entièrement connecté et qui fait d'ailleurs de Fincher un cinéaste infiniment contemporain et peut-être aujourd'hui bien plus en prise avec le contemporain qu'il pouvait être quand il faisait Seven ou The Game.
Qui est un peu à chromo,
si tu veux, avec une esthétique. Enfin, tu regardes Seven, ça doit autant à l'univers du comics d'Arc des années 80 que du néo-polar, si tu veux. Il a complètement changé plastiquement sa forme autour de Zodiac et de Social Network.
Ouais. Alors justement, je pense qu'on arrive. Il y en a un film qu'on n'a pas encore évoqué, alors qu'on dit qu'on allait en parler au début, et c'est la question que je suis obligé de la poser. A priori, Mank, qui est le film qui revient sur l'écriture de Citizen Kane par Herman Mankiewicz, donc dans les années, à la fin des années 30, il me semble. Alors où trouver le réseau à ce moment-là? Parce que là, pour l'instant, on a parlé évidemment de réseau. Alors, on n'a pas dit que Lisbeth dans Millennium était une hackeuse. On a Mark Zuckerberg pour The Social Network. Alors, Mankiewicz, a priori, ne construit pas des réseaux, il n'a pas fait de réseau social.
Oui, c'est pour ça qu'il faut dissocier, je pense, une approche thématique et vraiment une approche formelle des choses. Puisqu'en fin de compte, si on prend les différents films qu'on a évoqués, on pourrait prendre aussi les séries. Donc, évidemment, Mindhunter, mais aussi une autre dont Fincher a un peu posé les canons, que serait House of Cards. C'est qu'il faut aussi entendre le réseau comme un système. Et aussi comme une manière de dessiner un contre-système à l'intérieur du système. Voilà, là on revient peut-être à quelque chose aussi qui serait l'horizon thématique de Fight Club. Par exemple, pour prendre encore une fois une donnée purement formelle, si on regarde Mank et son ouverture, là encore il y a cette histoire de mouvement contraire, de mouvement ascendant, de mouvement descendant.
À gauche, à droite.
Alors voilà, par exemple, donc l'ouverture nous montre comment Mank arrive dans un ranch où il va être isolé. Donc déjà, c'est un truc intéressant. Il se met en dehors du monde, il se met en dehors du réseau du monde et le monde va essayer de le rattraper par différents embranchements, là encore. La visite de son frère, la visite de son ancienne amie, l'actrice sur laquelle il écrit plus ou moins.
C'est l'assistant d'Orson Welles qui n'arrive pas à débarquer chez lui. Comme
voilà,
ça,
etc. Donc il se met un peu en retrait du monde et il y a une suite de mouvements qui vont toujours dans le même sens, qui vont de droite à gauche. Quand on arrive dans le ranch, pareil, ça se filme de droite à gauche jusqu'à un élément perturbateur qui est récurrent dans le film, qui est l'affichage en fin de compte du scénario, c'est-à-dire par exemple extérieur nuit ou voilà intérieur jour, etc. Et donc on voit ce premier mouvement de l'écriture qui se fait à la machine à écrire. Alors là encore, la machine à écrire, il y aurait des choses à redire. Par exemple, le personnage principal de House of Cards s'appelle Underwood, c'est le nom d'une machine à écrire, il tient une Underwood, ça a une importance dans le récit. Et qu'en fin de compte, précisément le film va raconter ça. Le film va raconter comment un personnage qui est un pied dans le système et en dehors du système, qui serait à la fois dans la cour de Hearst, mais qui en même temps aurait des... Donc, William Hearst, si je ne me trompe pas.
Ouais, je crois que c'est ça.
Qui est donc un mania qui a inspiré...
qui a inspiré lointainement
le personnage de Kane dans le film d'Orson Welles, qui est donc à la fois dans sa cour, qui est même presque son bouffon, c'est assez nettement... et en même temps qu'il y a des opinions politiques différentes, qui à la fois est dans le système des studios, mais qui, on le voit bien, n'est pas non plus un scénariste qui a pignon sur rue et qui est à la faveur des producteurs, qui est vraiment un personnage qui est entre deux. Et d'ailleurs, dans sa posture, il est en permanence, il fait des angles droits, il est allongé. Enfin, c'est un personnage anguleux. C'est un personnage,
il est alcoolique en plus, donc il est toujours un peu baissé.
Il est titubant, voilà, c'est un personnage qui est tout le temps un peu entre deux eaux. C'est précisément par l'écriture qu'il va réimposer un récit, qu'il va se reconquérir lui-même, qu'il va même peut-être potentiellement trouver une rédemption. C'est aussi l'histoire d'une rédemption plus que l'histoire d'une écriture, puisque la question du scénario est en fin de compte réglée à la moitié du film. Ça permet de revenir un peu, même indirectement, sur, je pense, un malentendu dans la réception de Mank qui a été vu comme un film sur le cinéma, alors qu'on voit pas de studio. On voit pas de tournage. Le seul tournage qu'on voit, c'est...
On voit la MGM très rapidement.
Oui, mais pas quand on voit les bureaux de scénaristes, mais on voit pas...
Mais oui, même quand on voit la MGM, c'est un studio, c'est pour un rassemblement d'acteurs. C'est pas du
on
tout...
On voit une
c'est...
scène de tournage avec Davis,
mais
qui rate d'ailleurs.
Qui est un faux film. Qui est un film amateur, qui est filmé en extérieur, qui ne correspond absolument pas au canon statique de l'époque. Donc c'est pas du tout une scène représentative de ce que serait le cinéma de l'époque. Et pas de la même manière, il y a une scène. Une scène où on voit Mank écrire. au début, quand il imagine l'ouverture de Citizen Kane, et la résolution, enfin l'écriture du scénario, elle est soldée à la moitié du film. Donc clairement, le film ne parle pas de ça. Le film ne parle pas de ce que serait la mécanique d'écriture. Enfin, il explique ce qu'implique l'écriture. Pour Donc.
Je pense que ce qui est intéressant, c'est que justement, on voit pas le processus d'écriture, mais on voit tout ce qui permet d'y arriver quelque part et que ça implique comme ça de s'inscrire, comme tu le disais, à la fois dans le mouvement du monde et pas dans le mouvement du monde. Et il y a une scène notamment, la scène qu'on a évoquée de tournage, entre guillemets, dans un espèce de petit film, où on a le personnage de Mank qui arrive, ouais, qui va tourner autour d'un espèce de bûcher où il y a Marion Davis au-dessus, qui va se déplacer sur le côté comme ça, où il y a Earth qui arrive sur un espèce de travelling, quelque part, lui, alors il y a des mouvements partout dans cette scène, hein, les techniciens qui savent faire, etc. Lui, il vient faire son propre mouvement et redessiner lui-même son propre réseau, entre guillemets.
Il y a un plan très parlant, ce que tu dis, c'est très juste, c'est quand il se met au niveau de Earth, et en fait, il y a une espèce de faux split screen où d'un côté, il y a le travelling de Earth qui avance dans son espèce de convoi, et de l'autre côté il y a le personnage donc de Mank qui se met à son niveau et qui, alors exactement, il est un peu abaissé d'ailleurs parce qu'il est en train de marcher, donc la scène raconte très bien ça. Mais donc, pour répondre à ta question initiale, le système, c'est à la fois le scénario et surtout le mécanisme psychique presque du personnage, et puis même que c'est un peu entremêlé dans son esprit, et qui va en fin de compte réagencer, se réapproprier tout ce qui s'est passé par le biais de l'écriture.
Il y a au moins deux scènes à mon avis qui mettent en
évidence. Zuckerberg, en fin de compte, c'est à peu près la même chose.
J'allais justement faire un lien entre Zuckerberg et Mank, parce qu'il me semble que le point commun principal, c'est que ce sont des personnages qui réagencent les séquences de l'intérieur par leur usage du langage. Très manifestement, il y a au moins deux scènes dans Mank où il vient parasiter une scène en faisant un usage du langage qui consiste à redistribuer la parole de manière anarchique. La première, c'est quand il est avec le patron de... Alors, ça doit être le patron de la Paramount et Joseph von Sternberg.
Ah oui, c'est Selznick, oui.
Et c'est avec Selznick. Ouais. Et qui doivent présenter une espèce de scénario de film qu'ils improvisent vraisemblablement à 5 ou 6 sur un canapé, et où Mank a quasiment la fonction d'un chef d'orchestre qui redirige la parole, et chaque scénariste ajoute un élément improvisé comme une forme de catafalque, en fait. Hein.
Mais d'ailleurs, qui
dynamise la mise en scène, si tu
pour
veux.
Pour te couper, c'est encore une fois une histoire de réseau dans le réseau, puisque c'est ce que j'arrive, ils sont appelés, ils prennent des cigares.
C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est un réseau dans le réseau, dans la mesure où. La réception, donc la présentation de ce scénario est extrêmement guindée avec un réalisateur de prestige, et ils arrivent avec une espèce de scénario de série B complètement ridicule. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'en fait elle prépare une autre scène un petit peu plus tard dans le film, où Mank est invité à l'anniversaire de Louis B. Mayer, et où il y a le même principe de découpage, c'est-à-dire qu'en fait la parole va énerver
les... Son espèce de salon, c'est ça?
Oui, c'est ça, voilà, chez Hearst. Et la parole va énerver en fait une série de... C'est pas des chants contre chants, puisqu'en fait c'est complètement étoilé, il y a, je sais pas, 10 personnages qui se coupent la parole les uns les autres, avec une espèce de pianiste qui vient ponctuer chaque saillie, une espèce de leitmotiv, et où Mank vient insinuer progressivement des remarques d'ordre politique, notamment sur Sinclair Lewis, si je ne me trompe pas, le...
Je veux pas dire...
Upton Sinclair.
Non, c'est un autre écrivain. Upton Sinclair, qui se présente à la candidature en Californie. Or, ce qui m'intéresse ici, c'est que la parole de Mank vient à la fois, comment dire, fonctionner comme un redistributeur de la dynamique, cette fois orale, à l'intérieur de la scène.
Mais c'est un échangeur.
Voilà, c'est ça. Et en même temps, il vient la parasiter de l'intérieur. Or, Zuckerberg fait exactement la même chose dans Social Network. C'est un chef d'orchestre qui redistribue à chacun des personnages qui seraient ses instruments une note à produire à l'intérieur d'un tout qui formerait un ensemble organique. Or, je crois que Mank donne la clé quand même d'ordre du point de vue esthétique, et d'ailleurs tu l'avais noté dans ton texte, Josué. Qu'est-ce que font ces personnages? Ils font de l'opéra. C'est des chefs d'orchestre d'opéra, oui, littéralement. C'est-à-dire que ce sont des chefs d'orchestre qui ont des solistes. Ça rejoint d'ailleurs le motif du méga-narrateur qui est un peu la figure structurante de l'ensemble des films de Fincher, hein, le Zodiac qui dirigerait les mouvements de chacun des enquêteurs en les guidant la baguette, la femme de Ben Affleck dans Gone Girl,
Amy,
dans la première partie de Gone Girl, qui laisse des séries d'indices, qui doit les rediriger pour qu'ils puissent trouver la somme de cadeaux, et ça arrive à la figure du film. La même chose pour l'Assassin de Seven, si vous voulez. À chaque fois, il y a une figure qui va structurer quelque chose à l'intérieur du récit qui serait une sorte de contre-récit. Or, ce qui est très intéressant, c'est que avec Mank, c'est la première fois que c'est une figure positive qui vient structurer ce contre-récit.
Alors ça, en fait, je suis partiellement d'accord pour la simple raison que, d'une certaine manière, il y a justement deux récits qui s'entrechoquent. C'est-à-dire qu'on peut considérer dans Zodiac comme on peut considérer, d'une certaine manière, dans Millennium, que le récit initial serait créé par un agent du chaos, un agent démoniaque, etc., où on peut considérer que par exemple Mark Zuckerberg lui-même serait une figure démoniaque qui imposerait son orgue et déréglerait l'ordre du monde, puisque bon, Facebook c'est quand même pas forcément l'entreprise la plus louable et honorable et bienveillante. Et en même temps, je pense qu'il y a une forme de réversibilité là-dedans, c'est-à-dire que l'enquêteur lui-même, par son action, réorganise un ordre logique. Et d'une certaine manière, alors je vois très bien en quoi on pourrait dire par exemple dans Seven qu'il y a une entité maléfique qui tirait les fils, etc.
Oui, c'est assez clair.
Moi, il me semble que la personne qui réorganise l'ordre, par exemple dans Millennium, c'est le tandem de manière synchronisée, voilà, entre le journaliste à l'ancienne et la pirate moderne, le hacker moderne, de la même manière que Mank, c'est intéressant d'ailleurs parce que Mank est en effet un personnage entre guillemets positif, mais qui en même temps a plein de travers. Il est alcoolique, il joue au jeu, il dénigre un peu sa femme, il a une forme aussi d'une certaine complaisance, on pourrait dire, vis-à-vis de Hearst, voilà, il a une forme d'ambivalence aussi.
On pourrait dire qu'il est un peu toxique, quoi, voilà, il a cette toxicité-là.
Ouais, on pourrait dire ça, mais on pourrait dire, d'une certaine manière, c'est un personnage qui, par son cynisme, et par est un peu flottant, de travail, une forme de dérision. D'ailleurs, il a une intercation avec le second de Lubemeyer qui lui dit ça, d'une certaine manière.
Il y a cette scène de dîner aussi, où il envoie tout le dîner.
Exactement, c'est-à-dire que sa bouffonnerie lui permet de prendre une distance vis-à-vis du monde, et que, évidemment, le scénario de Citizen Kane lui permet, quelque part, de corriger son handicap littéral qu'il a à l'origine, à savoir la fracture de sa jambe. Donc c'est vraiment un personnage super en main, qui peut marcher solidement que sur une jambe au début du film. Et en même temps, c'est assez dit très net, de manière très nette, c'est en même temps une demi-réussite, c'est une demi-action, il a un demi-Oscar. La phrase finale d'Orson Welles, c'est Kiss My Alf, dans un jeu de mots, et que lui-même voilà, sera co-auteur. Donc il y a toujours.
C'est intéressant parce qu'il sera en étant lui-même un peu coupé en deux, si on veut, il serait entre deux points, et quelque part il serait voilà, entre deux points d'un réseau, si on veut.
Là, c'est ce qui fait que les personnages aussi de Fincher sont ballottés. Hein. Il faut se souvenir que par exemple, la fin de Social Network. C'est quand même le maître du monde prisonnier de sa création. C'est le personnage de Zuckerberg qui réactualise la page Facebook de la petite copine qu'il a larguée dans la première scène. Et c'est dit de manière assez nette, de manière parfois d'ailleurs un peu surlignée par le scénario de Sorkin, qui est un peu la raison cachée, qui est son rosebud, si on veut aller au bout de la logique, qui est le rosebud de Zuckerberg. Et en fin de compte, il n'attend qu'une demande d'amis, il n'aura fait tout ça pour ça, et il est emprisonné dans une boucle. Donc d'une certaine manière, il y a toujours une forme de relativisme, hein, de la création de cette nouvelle ordre, de la manière que bah, y a une incertitude sur l'identité du Zodiac. La fin de Gone Girl, dont on a assez peu parlé, c'est un mariage, c'est un arrangement où personne n'est vraiment tout à fait dupe de la réalité des choses.
Et peut-être pour...
Et Millennium, c'est une déception amoureuse. Mm-hmm. Enfin, la fin de Millennium est assez déchirante. C'est l'impossibilité, véritablement, de créer un réseau affectif sur le long terme.
Mm. Et peut-être que pour refermer un petit peu le débat et pour le conclure, je sais pas, que c'est aussi ce qui fonde la dynamique, d'être à la fois entre d'un point et d'un autre, d'être entre deux points et d'aller sans cesse là, sur différentes polarités, alors qu'elles peuvent être dramaturgique, formel, etc. Et on a vu qu'avec Fincher, voilà, il y avait tout un réseau de signes, de formes et de mouvements qui fondaient aussi ce qui faisait que sa mise en scène voilà, avait quelque chose aussi d'important, en fait, selon nous, en tout cas, c'est ce que vous aviez aussi écrit dans votre texte.
Oui, puisque l'enjeu du texte qu'on avait écrit il y a deux ans, et l'une des raisons aussi pour lesquelles peut-être Fincher nous intéresse en particulier, c'est que ça serait un cinéaste résolument contemporain. Alors il y a une question qu'on n'a pas du tout évoquée, qui est d'ailleurs au cœur de l'essai que lui a consacré Guillaume Aurignac, c'est évidemment la question du numérique, et comment Fincher s'est fait le spécialiste de la retouche numérique, c'est-à-dire un travail de numérique en profondeur, mais qui est complètement invisible à l'œil nu. D'où ces vidéos qu'on pourra peut-être intégrer d'ailleurs dans la description, dans la notice de la vidéo, assez fascinante. En split screen, on voit d'un côté le tournage et toutes les retouches en post-production qui sont faites. C'est aussi quelque chose d'intéressant puisque c'est une manière à l'intérieur d'une captation de recréer, de retisser le monde. Moi je trouve ça assez fascinant, notamment les retouches qu'il fait dans Manhunter, parce que c'est vraiment des détails un peu saugrenus. Il va retoucher par exemple la bordure d'une chaussée, il va la lisser, ou il va mettre un petit kiosque là. Enfin, c'est pas des retouches toujours absolument...
Ouais, ce qui est sûr, c'est que le parallèle qu'on pourrait dresser avec Fincher, au-delà des pathologies des personnages, ce serait sa volonté d'être l'architecte d'un réseau aussi, quelque part. Et le réseau, évidemment, ce serait le film. Et ce serait plus loin sa
filmographie. D'où le soupçon en maîtrise, qui lui colle un peu le basque. Qui n'est pas complètement faux d'une certaine manière, si on s'en tient ne serait-ce qu'aux déclarations de ses collaborateurs, qui expliquent en même temps sur un tournage à quel point Fincher en fait est quelqu'un qui pourrait tenir tous les postes techniques, qui est quelqu'un qui a une espèce de maîtrise, de connaissance un peu absolue de son art. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement comment il met ça en scène. Il met en scène une forme de chaos généralisé tout en tenant une fluidité. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui justement va être dans une fluidité qui se lirait sur des raccords de pure évidence, c'est-à-dire qu'il va tout le temps faire des espèces d'entrechocs de plaques tectoniques. Donc, qu'il soit un cinéaste de la maîtrise, qu'il soit un cinéaste de la fluidité, qu'il soit un cinéaste de la cohérence, ne me pose dans cette mesure-là absolument aucun problème, puisque c'est quelqu'un qui va, par cet grand art de la fluidité du contrôle, hein, qui lui permet aussi du numérique, d'embrasser le chaos du monde, d'embrasser un désordre et de faire dégager un ordre à partir de là. C'est quand même un horizon formel assez passionnant. Et il me semble que justement, c'est ce qui fait la richesse de Millennium. Hein. Millennium, par moment, je me dis, mais comment il arrive à tenir le bout? Comment il arrive à tenir son récit? Comment il arrive à tenir l'embranchement de ses fils, qui sont absolument tentaculaires? Et il le fait par sa maîtrise, mais c'est une maîtrise du chaos. C'est pas une maîtrise
limitée. C'est organisé sur des principes de rééquilibrage qui sont très très impressionnants, parce que c'est pas simplement une vision du monde qui se donne, c'est vraiment son détail même. Une composition quasiment plastique. Enfin, il y a une dimension presque de peintre, de maître d'œuvre, comme ces peintres du Moyen-Âge qui faisaient d'immenses fresques dans lesquelles on pouvait se projeter, qui étaient un monde dans un monde. À la fois, c'est la représentation d'une vision du monde qui est indexée sur le contemporain, qui est absolument fascinant parce qu'il a vraiment pris en charge la question de la vitesse, qui est celle aussi du à la fois du numérique comme mode de tournage et du numérique comme mode de communication.
L'information et la communication.
Voilà, des tartes à la crème, mais qui rend ça passionnant, c'est important, qu'il les problématise vraiment.
On l'a pas dit parce que pour nous c'est une forme d'évidence, mais il faut dire à quel point Fincher aussi c'est complètement libérateur par rapport à la représentation du numérique qu'il y a eu dans les années 2010, c'est-à-dire on a filmé des gens derrière leurs ordinateurs prisonnier, etc.
Un peu figé, quoi. Enfin, il y a ce côté, cette espèce d'inertie, là.
Complètement. Mais ce qui est intéressant, c'est que Fincher n'occulte pas du tout cette dimension. C'est la fin de Social Network, ça se termine là-dessus. Mais il filme quand même la vitesse des flux, la dynamique, de l'embranchement, de la communication, du fait qu'on est tous reliés les uns aux autres. Millennium, par exemple, c'est vraiment incroyable là-dessus, hein, sur même un personnage qui est à l'étranger, etc. Comment le récit est fondé sur une série d'ellipses, sur des sauts temporels, sur des sauts géographiques. C'est quelqu'un vraiment qui a réussi à capturer dans sa forme même la vitesse du monde contemporain. Et ça, il n'y a quasiment aucun cinéaste, je pense, sur ces dernières années, qui ait réussi à ce point-là, à ce degré-là, à cette incandescence-là, de certaine manière.
J'ai l'impression qu'on pourrait continuer comme ça encore deux heures. On va peut-être s'arrêter là pour cette fois, sachant que le cas n'est pas fini. Il y aura d'autres films de Fincher, on pourra revenir dessus et on mettra dans la description de toute façon les liens des textes qu'on a évoqués. Il y en avait sur Mank, il y en avait sur Millennium. On avait fait aussi un débat vidéo sur Google l'an dernier.
Sur
Manhunter, on pourra le mettre aussi. Écoutez, merci messieurs, je pense qu'on a fait pas mal le tour, on a évoqué pas mal de questions, même s'il y a encore plein de choses à explorer justement dans ce grand réseau tentaculaire qui serait la filmographie de Fincher. Je remercie évidemment Étienne et Hugo derrière les caméras pour la réalisation de cette émission, merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Alors si l'émission vous a plu et si vous voulez soutenir le travail de la rédaction et l'émission Atari, vous pouvez le faire, vous avez une page Tipeee sur laquelle vous pouvez faire des dons et on mettra le lien évidemment dans la description. Alors on se retrouve le mois prochain peut-être pour un film d'actualité, peut-être pour parler d'un cinéaste, on verra.
On verra.
Mais voilà, merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt.